Elles sont 33, 33 prud'homies le long du littoral méditerranéen.
Par exemple, la prud'homie de Palavas s'est battue juridiquement pendant 13 ans contre leur maire et un promoteur qui voulait assécher des lagunes et construire dessus.
33 prud'homies, 33 organisations de pêcheurs, Elisabeth Tempier, secrétaire de la prud'homie de Saint-Nary-sur-Mer.
Ils se sont battus sur plusieurs sujets, mais là, ils étaient vraiment attaqués, eux, par le maire et le promoteur, pour abus d'ester en justice et uniquement parce qu'ils avaient voulu faire appliquer la loi littorale.
Des pêcheurs qui exercent la pêche artisanale uniquement.
S'ils perdaient, ils devaient vraiment payer sur leur propre budget familial, enfin personnel. Et il leur a fallu 13 ans de lutte avec tout ce que ça signifie, payer un avocat et tout ça. Bon, ils ont gagné aussi. Voilà, maintenant on trouve ça logique, mais il y a quelques années en arrière, vraiment le littoral était voué au bétonnage et c'était pas si facile que ça. Des exemples comme ça, il y en a vraiment un peu partout sur tout le littoral et souvent c'est quelques pêcheurs qui ont mené ces luttes là.
De Saint-Cyprien à la frontière espagnole jusqu'à Menton, en passant par Nice, Villefranche, la prud'homie est une véritable originalité de la Méditerranée.
On peut comprendre que ce soit développé sur le littoral méditerranéen ce genre d'organisation parce qu'en fait c'est un territoire qui est relativement restreint au niveau pêche, parce qu'il y a un plateau continental qui est peu étendu. Bon, on peut imaginer que la rareté relative ait amené les pêcheurs à s'organiser pour gérer leurs affaires, sachant que c'était une organisation très fine, avec une répartition des zones de pêche, de postes de pêche. Donc une organisation qui était trop pointue pour être faite directement au niveau régional ou national.
La prud'homie, cette traditionnelle organisation des pêcheurs de la Méditerranée, est bien antérieure à celle de l'État.
On a l'habitude de dire que les prud'homies remontent au roi René, donc au XVe siècle. Mais même avant, on a des archives qui attestent de la création, enfin, ou de l'organisation de pêcheurs professionnels, y compris aussi à l'époque archéologique.
Palavas, Port-Saint-Louis-du-Rhône, l'étang de Berre. Il n'y a pas besoin d'être marin-pêcheur ni même de la région pour que cela évoque quelque chose, Elisabeth Tempier.
Si vous prenez le cas de l'étang de Berre, en fait, c'est quelques pêcheurs, vraiment une poignée de pêcheurs qui s'est battue contre l'EDF et qui a également assigné l'État français par le biais de la Cour européenne pour non-respect de la Convention de Barcelone. En fait, ils ont gagné. C'était vraiment le pot de terre contre le pot de fer. L'étang de Berre, c'est la lagune la plus grande d'Europe. Quand là aussi, on lit les descriptions des naturalistes du début du XXe siècle, c'était une zone extraordinairement riche. Et en quelques années, les raffineries, mais surtout les rejets des eaux de la Durance, ont complètement perturbé le milieu. On peut imaginer que depuis que ces rejets ont été réduits, le milieu reprenne un peu ses droits et une part de sa richesse.
Ce train TER desservira les gares de Bandol, Saint-Cyr-les-Lacs-la-Cardie-d'Azur, La Ciotat, Cassis, Aubagne, La Penne-sur-Vaune.
À l'origine un port de pêche, Saint-Nary-sur-Mer à sa rue de la Prud'homie, son bel olivier juste à côté et son banc pas très loin pour bavarder. La Prud'homie de Saint-Nary-sur-Mer, ce sont une quinzaine de pêcheurs qui vivent toujours de ce métier. Elisabeth Tempier, secrétaire de la Prud'homie.
Par exemple, leur poste de pêche, ça c'est le cas en ce moment. Sur les postes de pêche, on cale des filets en hauteur qui viennent jusqu'au ras de l'eau. On dit que ces filets veillent sur l'eau. Ça fait comme une muraille et c'est calé comme un point d'interrogation. Pas très au large devant les caps. Et pour arrêter le poisson de passage et le prendre. Mais c'est des filets qui sont en fait très, très peu longs, quoi, qui font quelques centaines de mètres uniquement. Et si un bateau passe dessus, en fait, il endommage le filet. Et avec la fréquentation de la navigation, ces postes deviennent impraticables dès le printemps. Donc la prud'homie envisage justement de faire, peut-être avec la commune, un balisage pour protéger ces zones de pêche.
À Saint-Nary-sur-Mer, il n'y a pas seulement du poisson, mais il y a aussi des oiseaux. Avantage, tout le monde s'entend bien avec tout le monde. La mairie avec la prudomie, et c'est important, une étrangeté bienvenue dans le monde des hommes.
Toute l'intelligence de cette organisation, c'est qu'en fait, ils gèrent d'abord des hommes. Ce sont des hommes qui gèrent leur activité, donc elle est d'abord humaine et communautaire, avant d'être une gestion de la ressource. Tous les engins sont réglementés de manière à protéger les moins efficaces. C'est par ce biais, en protégeant les métiers les moins efficaces, parce que tout le monde doit pouvoir en vivre. Ça préserve l'ensemble de la communauté des techniques qui seraient très intensives et qui risqueraient de mettre à mal la ressource sur le territoire.
Oh, la chose qui vient est spécialement dédicacée à tous ceux qui aiment la Méditerranée et à ceux qui adorent s'y plonger comme nous. Oh, que c'est bon, cousin. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Quand moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Quand moi ça me rend heureux, elle est pleine de poissons, elle est pleine de poissons. Des petits, des gros, des fins, des longs et même des tourons. Certains vivent près du bord et d'autres vivent dans le fond. Certains sont sédentaires et d'autres changent d'horizon. Ils n'ont pas grand chose à faire, ils ne se font pas de mourons. Ils ont leurs identités, moulons de style et de façon. Les petits mangent les verres et les gros les dévoreront. Mais la chaîne alimentaire, il faut que nous la respections. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi ça me rend heureux, elle est pleine de marins, elle est...
Elisabeth Tempier, elle s'intéresse aux prud'homies depuis l'âge de 24 ans. À l'époque, et donc elle est un âge canonique, l'étrangeté de cette organisation qui obéit à cette loi de la nature si proche de la chaîne alimentaire, le plus gros a toujours besoin du plus petit, a toujours ramené cette économiste à ses amours premiers, les prud'homies.
J'avais 24 ans, j'étais chargée d'une étude et je devais voir si cette institution avait un rôle dans la gestion de la ressource. À l'époque, on parlait très peu de gestion de la ressource. Et les prud'homies avaient été très critiquées par l'État dans les années 60, quand la pêche a été industrialisée par l'État en Méditerranée. Justement, les prud'homies s'étaient opposées. Et donc, il y avait eu notamment un avis du Conseil d'État demandé par le gouvernement, mais qui disait que c'était une organisation corporatiste avec un rôle sociologique, mais qui, bon, était malthusienne et qu'elle devait disparaître. Voilà, c'était un peu l'image qu'on avait.
Une image aujourd'hui qui change à nouveau pour revenir aux sources d'une organisation intelligente.
C'est les premiers écologistes. Quand on regarde avec attention les archives des prud'homies, c'est phénoménal. Ce sont des gens qui se sont battus depuis très longtemps contre toutes les emprises, et tous les impacts qu'il y a pu avoir sur le littoral, et avec souvent d'ailleurs des résultats extrêmement étonnants, souvent peu connus.
Les pêcheurs, eux, bretons et méditerranéens, adeptes de la protection de l'environnement parce que c'est une évidence de la ressource économique, ont appris à faire connaissance.
J'ai rencontré les personnes du collectif Pêche et Développement pour le Forum mondial des pêcheurs artisans, à l'OCTUDI en 2000. C'est bien connu, on est plus intelligents à plusieurs. C'était aussi très intéressant de pouvoir réfléchir sur la similitude des situations avec d'un côté une mer, de l'autre côté un océan, et donc des questions d'échelle assez différentes. Nous, un petit bateau, il fait évidemment moins de 12 mètres et plutôt même des fois 6 ou 8 mètres de long, qu'en Atlantique, c'est plutôt de l'ordre de 10-12 mètres, voire 14 mètres. Mais au final, bon, les logiques restent territoriales. C'est des gens qui vivent d'abord de leur activité sur le territoire proche, ce qui est très différent de grandes sociétés d'armement qui vont armer plusieurs bateaux pour... exploiter les zones et puis changer de zone quand elles sont moins intéressantes.
Palavas, Port-Saint-Louis-du-Rhône, l'étang de Berre. Aujourd'hui, c'est du côté des Calanques que les prud'homies pointent l'aberration.
Il est envisagé une réserve de 10%, nous dit-on, un peu plus de 10% du parc. Sauf que le parc en question fait 44 000 hectares et que donc la réserve fait 4 400 hectares. Ce qui est absolument énorme, la zone pressentie la plus grande est en fait la zone de la Cassidène, qui est une zone sur laquelle beaucoup de pêcheurs travaillent, y compris des pêcheurs varois. De geler des zones comme ça, c'est contraire à l'activité de la pêche artisanale qui par nature, en fait, est une activité opportuniste, c'est-à-dire qu'avec peu de moyens, elle va profiter des meilleures opportunités naturelles, c'est-à-dire des passages de poissons qu'il peut y avoir au fur et à mesure des saisons. Actuellement, la politique va vraiment à l'encontre de cette logique-là, puisque d'un côté, on veut faire des grandes réserves et donc empêcher l'accès à ces zones, et puis d'un autre côté, on veut gérer par métier ou par espèce, et donc on va interdire un métier, interdire l'accès à une ressource. Mais justement, plus le pêcheur artisan a de cordes à son arc, plus il va gérer le territoire et le préserver.
Une des cordes, justement, à l'arc des pêcheurs artisanaux, c'est cette nature si contraire à celle des poissons. Ils parlent, c'est même chez eux une tradition, un véritable héritage qu'Elisabeth Tampier a étudié.
Les prud'homies auraient dû disparaître depuis longtemps. Peut-être justement, ils ont pu bénéficier du poids de leur histoire. Inconsciemment, c'est des gens qui savent qu'ils ont reçu un certain héritage culturel, qui l'ont maintenu coûte que coûte, avec une certaine sagesse portée par l'histoire, qui souvent est assez admirable. Sachant en plus que c'est un patrimoine qui se transmet essentiellement par l'oralité, auprès de gens qui utilisent rarement l'écrit. Moi, c'est quelque chose qui me surprend toujours.
Il fut un temps où les pêcheurs allaient aussi aux champs. Les pêcheurs étaient aussi agriculteurs. Ce n'est pas une erreur. En fonction de la saison, ces habitants de la région travaillaient en mer ou bien à terre. Une période révolue en raison du coût du mètre carré sur la côte. Mais allez savoir ce que ces amoureux de leur environnement pourraient bien inventer.
Peut-être de la production de spiruline dans des serres, des petites serres en complément de la pêche. Bon, peut-être aussi associer ça, je ne sais pas, de la transformation des produits de la mer pour pouvoir vendre... Justement, des produits qui se conservent les jours où il n'y a pas de pêche. Voilà, on peut imaginer différents projets comme ça.
Affaire à suivre.
Ce train TER desservira les gares de Bandol, Saint-Cyr-les-Lecques, Cardi-Vaslur, La Ciotat, Cassis, Aubagne, La Penne-sur-Vaulne, Saint-Marcel, La Pomme, Marseille-Blancarde, Marseille-Saint-Charles.